Il est 18h sur France Culture, le journal Mathieu Laurent.
Bonsoir Frédéric Martel, bonsoir à tous. Un ancien SS attendu au tribunal meurt avant de répondre de ses actes. Karl Münter avait cautionné face caméra le massacre d'Ascq en 1944. Correspondance de Berlin et réaction de l'historienne Jacqueline Duhem. Le voyagiste Thomas Cook à quelques heures de la catastrophe, réunion de crise à Londres, commentaire de Jean-Pierre Mass, spécialiste de ce secteur d'activité. Comment expliquer les mobilisations citoyennes en Égypte contre le pouvoir? Élément de réponse avec Ahmed Benchemsi, responsable de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient. Évaporé, le glacier du Pitzel marche funèbre aujourd'hui dans les Alpes suisses. Précision de Jérémy Lanche. Il avait il y a peu cautionné le massacre d'Ascq et venait tout juste, c'était en juillet dernier, d'être mis en accusation par le parquet de Hildesheim en Basse-Saxe en vue d'un procès pour incitation à la haine raciale et atteinte à la mémoire des morts. Karl Münter, ancien SS, est mort sans avoir à répondre de ses responsabilités dans le massacre de 86 personnes commis dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, et jusqu'au bout, il aura gardé des sympathies pour l'idéologie nazie. C'est une correspondance de Berlin de David Philippot.
L'ancien sergent de la Waffen-SS n'aura donc jamais purgé la moindre peine de prison pour le massacre d'Ascq. 86 hommes âgés de 15 à 75 ans, raflés et liquidés lors d'une opération punitive. Un groupe de résistants avait fait dérailler 3 wagons d'un convoi militaire sans faire de victimes, mais la vengeance s'abattra sur des innocents. En 1949, Karl Münter et les autres soldats de la 12e Panzerdivision sont condamnés à mort par contumace par la cour d'assises de Lille, mais jamais la France ne demandera leur extradition. Devenu employé de poste, il coulera des jours tranquilles jusqu'à ce que la chaîne publique ARD le retrouve et l'interviewe. Face caméra, le criminel de guerre ne renie rien et cautionne le massacre. Les déclarations de celui qui est vu comme un héros par les néo-nazis lui vaudront une mise en examen en juillet dernier pour atteinte à la mémoire des morts. Mais le procès n'aura donc jamais lieu.
Seuls ces propos devaient être jugés, mais les familles de victimes espéraient que cela permettrait de revenir sur ce massacre. C'était aussi l'espoir de l'historienne Jacqueline Duhem, qui a d'ailleurs écrit un livre sur ce drame.
C'est une très très grande tristesse, parce que je suis en train de prendre conscience que l'affaire d'Ascq, toute l'affaire judiciaire, depuis des décennies, est en train de se clore. C'était la dernière possibilité d'avoir un procès en Allemagne où on mettait en évidence qu'il y a bien eu massacre à Ascq en avril 44, et non pas du tout comme le disent actuellement les néo-nazis et donc Karl Münter qui vient de décéder, ancien SS présent à Ascq, que ils avaient été attaqués, qu'ils avaient riposté et qu'en réalité, c'était des terroristes qui étaient morts. Enfin, terroristes pour eux, les résistants, c'était bien sûr des terroristes. Donc c'est ça ma grande tristesse, c'est de ne pas pouvoir avoir en Allemagne un procès, non pas pour demander vengeance, c'était pas du tout le cas, mais simplement pour établir la vérité sur ce qui s'était passé à Ascq en avril 44.
L'historienne Jacqueline Duhem avec Stéphane Barberoux. Le gouvernement français avait commandé un rapport à l'inspection générale des affaires sociales sur le coût de l'aide médicale d'État, l'AME. Il y a quelques jours, le chef de l'État tenait des propos marqués sur l'immigration, appelant ses troupes à la fermeté, de quoi accentuer l'inquiétude des associations. Et bien ce soir, la ministre de la Santé prend l'engagement de ne pas y toucher à l'AME. Agnès Buzyn insiste, je cite, sur la nécessité absolue de la préserver. Fin de citation. Urgence absolue cette fois pour l'une des composantes du pavillon français, avec en grande souffrance la compagnie aérienne XL Airways. XL Airways dont le PDG a demandé jeudi le placement de la société en redressement judiciaire et hier un sauvetage à Air France. Laurent Magnin, PDG d'XL Airways, au micro de nos confrères de France Info.
Parce qu'on a le même profil et le même feeling, c'est-à-dire, et je le dis avec beaucoup d'humilité, on sait parler aux gens. Moi, j'ai pas de grève depuis 15 ans. C'est unique dans l'histoire du transport aérien français. J'ai une relation à mes syndicats extrêmement puissante. La première chose qu'a fait Ben Smith en arrivant chez Air France, c'est de rétablir le dialogue social qui a été raté par une partie des gens d'Air France avant. Les pilotes de nos compagnies aériennes, les hôtesses et les stewards, le personnel sol, c'est au cœur de la stratégie. Vous avez deux solutions. Vous leur racontez une histoire, et c'est ce que fait Ben Smith, c'est ce que fait Laurent Magnin, et vous avez des réponses à ça, ou vous ne racontez pas d'histoire.
Donc vous lui avez demandé de le voir, est-ce que vous allez le voir?
Oui, je vais le voir, et nous devons dessiner une réponse commune. Après, c'est en son âme et conscience, il dira oui ou il dira non. Mais on a une histoire à faire ensemble sur le pavillon français.
Pronostic vital engagé cette fois pour le voyagiste britannique Thomas Cook, pionnier des tours opérateurs. Perclus de dettes, il a jusqu'à ce soir minuit pour trouver 227 millions d'euros, ne pas disparaître et ne pas avoir à rapatrier 600 000 touristes dont 10 000 ressortissants français à travers le monde. Comment expliquer cette dégringolade de Thomas Cook ? Jean-Pierre Masse est PDG des entreprises du voyage, l'ancien syndicat national des agences de voyage.
Objectivement, que Thomas Cook se retrouve là, ça ne m'étonne pas. C'est une société de la vieille économie qui a perdu 1,7 milliard d'euros au cours du premier semestre de cette année. Si Thomas Cook dépose le bilan, ce sera un coup de tonnerre parce que ça ne s'est jamais produit, parce que ça va vraiment ébranler l'ensemble de la profession. Et si ça se produit, c'est dans la façon de gérer l'après-faillite que nous saurons donner la preuve de la maturité de notre secteur, ou ne pas la donner éventuellement, mais on fera tout pour que notre secteur soit assez mature pour assurer la protection des voyageurs, le retour des voyageurs et la protection de ceux qui ont versé des acomptes. On ne peut pas dire que le secteur du voyage français soit fragilisé. D'abord, Thomas Cook n'est pas spécifiquement fragilisé en France. C'est le groupe Thomas Cook qui exerce essentiellement en Grande-Bretagne et en Europe du Nord qui est fragilisé. Les tours opérateurs et le secteur du voyage français n'est pas fragilisé. Il est certain qu'un sinistre comme celui-ci déstabiliserait l'ensemble, ébranlerait tout au moins l'ensemble du secteur. Mais Thomas Cook est une entreprise très grosse, très rigide et qui a affaire à des concurrents qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus réactifs, qui s'adaptent plus vite. Le modèle d'intégration verticale, propriété des avions, du tour opérateur, des hôtels, est un modèle du siècle dernier. Thomas Cook s'est arc-bouté sur ce modèle-là. Aujourd'hui, il n'est plus d'actualité.
Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Au cri de combat pour la liberté, libérer Hong Kong, des militants pro-démocratie ont rythmé un 16e week-end de protestations, affrontements avec des forces de l'ordre qui ont tiré des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes contre les manifestants près d'un centre commercial. Et si la contestation s'installait dans la durée en Égypte ? Ces dernières 48 heures, des centaines de citoyens ont demandé place publique la démission du président Abdel Fattah al-Sissi au Caire comme dans le delta du Nil. Aucun relevé fiable du nombre de protestataires, mais comment expliquer pareil sursaut ? Nabila Hamel a sollicité Ahmed Benchemsi, directeur de la communication pour le Moyen-Orient de l'ONG Human Rights Watch.
Les Égyptiens qui sont sortis par centaines et peut-être par milliers les deux derniers jours ont répondu à l'appel de Mohamed Ali, ce contractor, cet entrepreneur qui avait des contrats avec l'armée égyptienne et qui, de son exil espagnol, a publié une série de vidéos pour dénoncer les détournements de fonds et autres malversations dont il dit avoir été témoin. Maintenant, on peut se demander pourquoi cet appel-là a-t-il eu autant d'écho auprès des jeunes Égyptiens, enfin auprès des Égyptiens qui sont sortis dans la rue. Écoutez, sans savoir grand-chose sur le profil de ces gens qui sont sortis, on pourrait dire que, en fait, il suffisait d'une étincelle. Hein, parce que depuis 5 ans que le régime Sisi est au pouvoir, l'état des libertés en Égypte s'est dégradé comme jamais auparavant. Le principe même d'opposition est devenu tout à fait impossible. On compte les prisonniers politiques par dizaines de milliers. La torture est redevenue systématique, au point que Human Rights Watch, on a considéré ça comme un crime contre l'humanité. Les exécutions extrajudiciaires se sont multipliées. On en passe et des plus horribles. Donc le peuple égyptien est arrivé à un stade où il suffisait vraiment d'une étincelle pour le faire sortir dans la rue. Et c'est ce qui s'est passé avec ces vidéos de Mohamed Ali.
Refermons cette édition avec le souffle puissant des corps des Alpes pour accompagner une marche funèbre dans le dénivelé du Pizzol en Suisse, le Pizzol en deuil. Le glacier a disparu. Jérémy Lanche nous appelle de Genève.
La mort annoncée du Pizzol n'est en soi pas une surprise. Situé à une altitude relativement basse, le glacier ne devait sa survie qu'aux chutes de neige hivernales, mais la rapidité avec laquelle il a fondu inquiète les scientifiques. Depuis 2006, il avait perdu près de 90% de son volume. En l'état, il ne peut plus être considéré comme un glacier, selon l'Association suisse pour la protection du climat à l'origine de l'enterrement en altitude du Pizzol. Reste un constat, les glaciers alpins sont tous en voie de disparition avancée, peu importe leur altitude. En Suisse, le glacier d'Aletsch, le plus plus grand des Alpes, qui culmine à plus de 4000 mètres, devrait lui aussi fondre totalement avant la fin du siècle. Au total, ce sont 90% des 4000 glaciers des Alpes qui sont menacés, en tout cas si rien n'est fait pour contrer le réchauffement. En Suisse, les citoyens ont d'ailleurs lancé une initiative populaire pour obliger le gouvernement à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre en 2050. L'initiative pour les glaciers, c'est son nom, a déjà récolté les 100 000 signatures nécessaires pour que le texte soit soumis au vote de la population. Il ne devrait pas avoir lieu avant 2021. D'ici là, d'autres glaciers suisses auront sans doute encore disparu.
Le temps de demain, lundi, en quelques mots, plus calme sur une grande partie du pays, excepté une dégradation pluvieuse sur le nord-ouest.